On en a parlé tout à l'heure avec Philippe Quentin de la finale de la MLS. Ça intéressait combien de gens au Canada? Ça intéressait combien de gens au Québec? Mais à TVA Sports, en tout cas, bravo à l'équipe de diffusion. Ils étaient sur place. On sentait vraiment l'ambiance dans le stade Mercedes-Benz. On dit qu'on a rejoint une moyenne d'auditeurs d'aux environs de 63 000 téléspectateurs, 62 000. Vincent Destouches est avec nous, lui qui revient d'Atlanta. Bonsoir, Vincent.
Salut, Mario.
C'était survolté comme finale, mais Atlanta était trop fort pour Portland, tout simplement.
Ben écoute, c'était pas une finale au final, c'était un couronnement, et je te dis ça parce que Atlanta a réalisé une saison régulière fantastique, la deuxième meilleure de toute l'histoire, et c'était la meilleure équipe durant les séries éliminatoires. Alors forcément, ça se disputait chez eux, ils avaient l'avantage, et pas qu'un petit avantage, parce que jouer dans cette enceinte du Mercedes-Benz Stadium, devant une foule record de 73 000 spectateurs, avec l'énergie qui se dégageait, je peux te dire que ça aurait pu être intimidant pour n'importe quelle équipe, ça l'a été pour les Timbers de Portland, qui ont joué un petit peu avec les freins, forcément, parce qu'il y a toute une armada en face. Alors Atlanta l'a emporté logiquement, au vu de la finale, au vu des séries et au vu de toute la saison.
Et as-tu l'impression qu'Atlanta, à sa deuxième année d'existence, va en remporter quelques-uns de suite des championnats comme qu'ils viennent de le faire?
Ben, tu sais, il y a des chances, honnêtement. Mais il y a un an, je t'aurais dit la même chose de Toronto. Parce qu'ils avaient tellement survolé la saison 2017 que ça avait des allures de dynastie. Pourtant, ils n'ont même pas fait les séries cette année. Alors, tout est possible, mais c'est vrai qu'Atlanta dégage une impression de grandeur que j'ai jamais vue. Et ils ont de l'argent. Ceci explique peut-être cela, mais c'est pas tout d'avoir de l'argent, il faut prendre des bonnes décisions. Et les décisions ont été bien prises. Je pense que la meilleure de toutes les décisions, c'était d'aller prendre Tata Martino, l'entraîneur de cette équipe lors des deux dernières saisons, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, oui, là où joue Lionel Messi, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale argentine, qui va s'en aller, certes, mais reste que ça, c'était la figure de proue du club et aussi peut-être la clé de voûte de ses succès, parce que ça a fait venir des grands joueurs, ça a fait former une grande équipe avec donc un entraîneur très expérimenté, et c'est vrai que derrière, il y a toute une armada de marketing et d'investissement commandé par le propriétaire Arthur Blank, qui est également le propriétaire des Falcons d'Atlanta,
oui,
qui fait que vraiment, c'est un très, très gros projet qui prend forme là-bas.
Oui, vraiment, et là, cette fois-là, M. Blank n'est pas descendu pour rien au niveau du terrain. Lui, qui, on s'en rappelle, était descendu un petit peu trop tôt, alors qu'il pensait que ces Falcons étaient pour remporter le Super Bowl, ce qui ne s'est pas concrétisé. Alors, c'était jour de fête, soir de fête pour lui, pour Atlanta. Avais-tu le sentiment...
Tu sais, Mario, je tiens à dire là-dessus que moi, qui étais sur place, j'ai été vraiment impressionné par le fait que on sent pas qu'Atlanta, c'est le petit frère des Falcons d'Atlanta ou le petit frère mal aimé. Tu rentres dans le Mercedes-Benz Stadium, les logos, ils sont côte à côte. C'est totalement égalitaire. C'est un stade qui est partagé. On assume complètement cette copropriété. Et tu sais quoi, actuellement, je te dirais même que c'est les Falcons qui sont le petit frère mal aimé d'Atlanta, parce que la semaine dernière, l'équipe de football, elle a rempli que 35 000 spectateurs, oui, dans cette enceinte. Je te dirais que 35 000, alors que là, on était à 73 000. Le succès, c'est vraiment celui de la MLS actuellement là-bas.
Ben oui, puis j'allais justement dans le même sens que ce que tu viens de dire. Tu as demandé, sentais-tu qu'Atlanta était foot, était soccer? Puis je pense que tu viens de répondre de façon assez éloquente, hein?
Mais oui, mais vraiment, et ça se sent, tu sais, j'ai pas croisé une seule personne dans ces quatre jours qui ignorait qu'il y avait une finale. Et pourtant, j'ai croisé des gens qui viennent de Floride, qui viennent de Philadelphie, ils sont pas tous originaires de là, mais ils le savent tous, c'est partout, tu vas à l'aéroport, dans les boutiques, c'est tout aux couleurs d'Atlanta United et pas des autres clubs professionnels. Alors, c'est impressionnant le succès du soccer là-bas. Je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé la recette de la potion magique, et je te dirais que tout le monde en MLS se le demande parce que c'est unique. Et c'est pour ça que la MLS, peut-être secrètement ou pas si secrètement, espérait probablement que la finale se joue à Atlanta, parce que c'est une carte de visite exceptionnelle. C'est une nouvelle. Partout dans le monde, qui a remporté la MLS, bah, cette nouvelle, tu l'accompagnes d'images d'Atlanta, de ses 73 000 spectateurs, de Tata Martino, des grands joueurs. Et là, ça fait le buzz. Et puis peut-être qu'il y a des joueurs, voire d'autres entraîneurs dans le monde qui se disent, la MLS, c'est pas exactement ce que je pensais. Et ça peut faire boule de neige.
Ah non, ça fait big. T'as raison de le souligner. Ça fait très crédible. Ça a l'air d'un Super Bowl du soccer. Pourtant, dans une ligue qui, quand on la compare aux autres grandes ligues à travers le monde, n'est pas la meilleure, n'est pas la la plus relevée, mais peut-être que d'ici 10 ans, on en parlera autrement. Bon, tu dis qu'il n'y a pas personne à Atlanta qui semblait ignorer que la finale se jouait. Pourtant, ailleurs en Amérique, je pense qu'il y en a beaucoup trop qui l'ignoraient. Donc, ici au Québec, c'était ça le propos de Philippe Quentin tout à l'heure à sa chronique. Mais la culture du soccer ne se limite pas à l'intérêt des Québécois pour la MLS. Il y en a beaucoup qui ont les yeux tournés vers ailleurs, vers d'autres ligues, Vincent, d'ici, hein?
Ben exactement, puis ça prend un petit peu de temps. Moi, j'ai pas vu les chiffres en tant que tel encore. Je suis à peine revenu d'Atlanta, mais tu sais, c'est une culture qui met un peu de temps à se bâtir également. Atlanta, moi, je te parle de tout ça. Ce succès, il s'est bâti en 2 ans. En 2 ans de jeu, même si la franchise a été accordée à Atlanta il y a un petit peu plus longtemps que ça. Alors, les gens entendent parler d'Atlanta United seulement depuis 2 ans. À quel point ça te donne envie peut-être d'allumer ta TV et de regarder, je le sais pas encore. Ce que je sais, c'est que ces images, ce que je suis en train de te raconter, c'est vrai. Et ça, ça se manufacture pas et ultimement, un succès, ça peut que être contagieux. Il y a un club ici, en MLS, en Amérique du Nord, qui défonce les plafonds, qui est capable de dépenser chaque année 15 millions de dollars pour aller chercher des joueurs. Il y a des grands joueurs qui arrivent dans ce championnat et pas seulement des pré-retraités. Le niveau s'élève. Alors tranquillement, à un moment donné, on s'intéresse de plus en plus à ces joueurs, aux autres équipes. Peut-être que ça fait venir un petit peu plus de monde, même au Stade Saputo. Alors tout ça, ça prend un petit peu de temps, hein. L'impact est quand même en MLS que depuis 2012. Ça se commande pas du jour au lendemain. Je pense que Joey Saputo et l'impact de Montréal a quand même quelques leçons à apprendre de ce qui se fait ailleurs, mais le succès de la MLS, le succès de l'impact passe aussi par le succès de la MLS, donc voilà, ça prend du temps à bâtir cette culture.
Quelques nouvelles en rafale, accompagnées de tes commentaires, bien sûr, Vincent. Départ de Maxime Crépeau échangé pour 50 000 $ aux Whitecaps de Vancouver. Crois-tu qu'il va percer leur alignement?
Je le crois que c'est possible, et j'en discutais avec l'équipe de TVA Sports ce week-end avant qu'on annonce l'échange de Zach McMath, un autre gardien que Vancouver a acquis pendant la toute petite fenêtre des transferts hier. Je croyais vraiment que Marc Dos Santos allait peut-être aller chercher un autre gardien, mais pas un grand gardien, quelqu'un qui va être en concurrence quelque part avec Maxime Crépeau. Donc à lui de jouer, hein, au jeune Québécois, il a une opportunité, pas forcément d'être numéro un, mais de se battre pour un poste de numéro un. Il a un entraîneur qui est allé le chercher lui, exprès pour ça. Alors écoute, il voulait sa chance. Je pense qu'il va l'avoir peut-être du côté de Vancouver.
Parle-nous de la nouvelle acquisition de l'Impact en provenance du FC Dallas, dénommé Urruti, et surtout du fait qu'on a donné un premier choix au super repêchage, 10e au total du prochain repêchage. Est-ce que l'acquisition en vaut le prix?
Écoute, Mario, je vais être très honnête avec toi. Quand j'ai vu ça, tout ça, et je l'ai appris samedi, je l'ai révélé d'ailleurs à l'antenne de TVA Sports, cette annonce-là, avant que l'Impact l'officialise, j'ai fait waouh. Pas parce que nécessairement Maxi Urruti c'est le meilleur attaquant de la ligue, c'en est quand même un bon, mais parce que c'est rare que l'Impact fasse ce genre d'échange-là. Et il commence peut-être à bien faire les choses. Il faut savoir recruter à l'intérieur de la MLS et savoir être malin. Moi, quand je vois ce qu'ils ont échangé, ce qu'ils ont donné en retour plutôt de Maxi Urruti, qui a quand même 29 buts, 20 passes à ces 3 dernières années, qui est demandé en Argentine, hein, vraiment, il a une bonne valeur marchande et qui pourrait avoir une bonne chimie avec Ignacio Plati et Alejandro Silva. Ce que l'Impact a donné, c'est 75 000 en argent d'allocation. C'est franchement pas grand-chose. Et un premier choix au prochain repêchage. Quand on sait que Rémi Garde n'est pas vraiment axé là, tout de suite, maintenant, dans le présent, sur la formation, sur le développement des joueurs, mais plutôt sur le fait de former une équipe qui est capable vraiment de compétitionner tout de suite pour faire les séries, je trouve que ça fait du sens et je trouve que l'Impact a gagné cet échange.
Et en terminant, la liste de protection de l'Impact de Montréal, est-ce qu'il y a des noms de joueurs non protégés qui te font grimacer, qui pourraient être recrutés par la formation d'expansion de Cincinnati?
Écoute, je pense que l'Impact a joué malin. On sait que Rod Fanny, Bakary Sagna notamment sont des joueurs qui n'ont pas encore re-signé avec l'Impact de Montréal et dont les options n'avaient pas été soulevées par l'Impact. Sauf que à quel point Cincinnati peut aller chercher Rod Fanny, qui n'a pas de contrat, qui n'a probablement pas envie d'aller là-bas, qui a envie de re-signer avec l'Impact de Montréal, ils peuvent pas. Je pense pas. Sincèrement, je pense que l'envie de ces deux anciens internationaux français, c'est de rester à Montréal. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'ils se soient pas entendus pour le moment pour, justement, permettre ce petit mécanisme actuellement de protéger d'autres joueurs, etc. Je pense que Anthony Jackson, par contre, ça peut être un joueur qui irait à Cincinnati. L'Impact ne l'a pas protégé. Ça reste un joueur, un bon jeune joueur canadien qui gagne peu d'argent. Par contre, il aurait le statut d'international. Est-ce que Cincinnati veut prendre une place d'international pour lui? Pas sûr, sinon il y a des Américains ou des joueurs qui ont leur carte verte et qui peuvent donc être échangés aux États-Unis sans problème, comme Chris Duval, comme Michael Azira, qui peut-être eux pourraient faire le saut. Mais tu sais, il y a énormément de bons joueurs qui n'ont pas été protégés par les autres clubs en MLS. Et je pense que si on est partisan de l'Impact de Montréal, on peut se dire que demain, ça se peut que l'effectif reste intact.
Ben, j'espère que tu as raison, Vincent. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée à tout le monde.
À bientôt. C'était Vincent Destouches, notre expert soccer. Je vous invite à vous inscrire au 98.5fm.ca dans la section concours pour la promotion qui est en vigueur actuellement avec Sale. Vous pourriez gagner votre carte cadeau de 200$ offerte par Sale. Et notre gagnant aujourd'hui est André Cyr de Saint-Sauveur. Et je vous invite à surveiller la grande ouverture du Sale de Lachenaie le 12 décembre prochain. On revient après les nouvelles en compagnie de Bruno Eppel, des matchs assez spectaculaires ou des fins de matchs spectaculaires dans la NFL hier.